Mademoiselle, Mesdames, Messieurs, bonsoir. Alors le titre de cet exposé, Être ou ne pas naître, ou bien Être et ne pas naître, ça dépend des affiches. Il y avait les deux versions. Vous avez donc compris qu'on va parler de l'avortement. Vous avez sans doute déjà appris que nous allons voter au mois de juin au sujet de l'avortement. Il y a deux initiatives soumises au vote et qui sont diamétralement opposées. Une initiative qui veut interdire l'avortement et l'autre, c'est la solution des délais, qui veut l'autoriser tout à fait librement jusqu'à 12 semaines et après ce délai, éventuellement sous certaines conditions sur le plan théorique. La campagne qui s'annonce va donc être probablement assez rude. Certains et certaines d'entre vous s'y sont déjà engagés. Dans cette lutte contre le fléau de l'avortement, je les en félicite. Mais même pour ceux qui n'y prendront pas une part active, il est important de résister psychologiquement, de ne pas se laisser ébranler par certains arguments du lobby pro-avortement et de la presse. C'est d'ailleurs en fait la même chose. Il n'y a pas vraiment de différence entre le lobby pro-avortement et la presse. Donc ce serait le but de cette conférence, de vous donner une information et puis une capacité de résistance aux arguments que vous pourrez entendre lors de cette campagne. À vrai dire, il n'y aura probablement pas beaucoup d'arguments d'un niveau très élevé. On aura plutôt affaire à des slogans, des invectives disqualifiantes du genre fondamentaliste, ultra-intégriste, taliban, j'en passe. Il y aura peut-être des créations encore. Néanmoins, les partisans de la libéralisation de l'avortement, il faut le reconnaître, ont quand même des arguments, quelquefois d'apparence solide, et qui pourraient nous dérouter. Il peut arriver donc d'y être confronté. D'autre part, l'humanité de l'embryon paraît de moins en moins évidente chez beaucoup de personnes, une grande part de la population maintenant, ce qui rend le combat contre l'avortement de plus en plus difficile. Cette question de l'humanité de l'embryon est donc importante. Elle est souvent évitée avec habileté par certaines personnes qui prônent la dépénalisation de l'avortement. Cette question est aussi intéressante en soi. Elle est stimulante sur le plan intellectuel et aussi pratique. Je vais donc vous parler de ce problème, vous exposer cette question dans la deuxième partie de mon exposé. Tout d'abord, dans la première partie que j'aborde maintenant, je voudrais vous faire un rappel législatif. Nous avons donc affaire à une tentative d'introduire une nouvelle loi plus permissive. Alors vous allez me demander pourquoi finalement vouloir changer la loi sur l'avortement. En effet, actuellement, toute femme peut déjà avorter comme elle le veut en Suisse. Et on le constate, chez nous, la pratique de l'avortement est absolument similaire à celle des autres pays qui nous entourent. Et pourtant, il faut savoir que la loi actuelle est dans le texte très restrictive. L'avortement, selon cette loi, ne devrait être autorisé qu'après avis d'un expert et seulement si la grossesse menace la vie de la mère ou met en danger sa santé de manière grave et permanente. Il s'agit donc en réalité de situations très rares. Et normalement, selon la loi, il ne devrait y avoir que très peu d'avortements. Alors pourquoi, avec une telle loi, y a-t-il autant d'avortements qui se font actuellement? C'est que, tout simplement, cette loi n'est pas appliquée en raison d'une collusion des pouvoirs politiques, judiciaires et médicaux. Les chefs des départements de la santé nomment les experts favorables à l'avortement. La notion de santé est interprétée dans un sens très large, selon une définition de l'OMS qui dit la santé n'est pas seulement l'absence de maladie, mais aussi un parfait état de bien-être physique, psychique, social. Alors, toute la Suisse est occupée par la culture de mort. Toute, non. Un village peuplé d'irréductibles Helvètes résiste encore et toujours à l'envahisseur. Ce petit village, ce sont quelques lointains petits cantons et demi-cantons de la Suisse centrale et orientale, où le pouvoir politique a, semble-t-il, résisté à la culture de mort et où la loi actuelle est appliquée à la lettre. Il n'y a donc, à notre connaissance, pas d'avortement légal depuis des années dans ce petit village, qui représente pourtant bien peu de population par rapport aux cantons de Zurich, Genève, d'autres cantons citadins. Et pourtant, cette situation énerve le lobby pro-avortement, qui déploie la banderole égalité-solidarité en disant « Les femmes de Suisse centrale ne peuvent pas avorter, comme leurs consoeurs des autres cantons. C'est un véritable scandale. La solution des délais permettrait donc de supprimer cette inégalité. » Il y a un autre motif, probablement encore plus important, mais pas tellement mis en avant, pour introduire la solution des délais. C'est que si jamais par hasard, tout peut arriver, si les hommes politiques changeaient un peu de couleur et l'idée d'appliquer la loi actuelle à la lettre telle qu'elle est, ce serait un retour en arrière, une véritable catastrophe pour le lobby pro-avortement. C'était jusqu'à présent aussi notre raison d'espérer et de se mobiliser comme on l'a fait jusqu'à présent. J'en arrive donc à la deuxième partie, où je vais traiter plus spécialement à la question, au débat qui concerne l'embryon, le zygote et l'embryon. Peut-être quelques définitions. Zygote, tout le monde ne sait peut-être pas ce que c'est. C'est la première cellule fécondée, le point de départ. L'embryon, on peut le considérer comme les stades où les organes ne sont pas encore formés. À vrai dire, qu'on pratique l'avortement, en particulier jusqu'au délai proposé de 12 semaines, on n'a plus vraiment affaire à un embryon, mais à un fœtus où tous les organes sont en place et où la question de l'humanité, du fœtus devrait être évidente. Néanmoins, cette question, comme je vous l'ai déjà dit, est importante, intéressante, et j'avais l'intention de me limiter à ce point dans cette conférence, pour cette partie d'un article de Pascal Hyde, un philosophe qui a publié donc cet article dans Nova et Vetera. Je m'en suis très largement inspiré, je l'ai même quelquefois complètement copié, je dois l'avouer. Je peux toujours vous donner les références si vous voulez lire l'article en entier. C'est assez long et compliqué. Si je n'avais pas dû faire, d'ailleurs, si je n'avais pas été obligé de faire cette conférence, je ne l'aurais probablement pas lu en entier. Je vais donc vous faire un résumé, une présentation de haut. Restons donc à la question, le zygote est-il une personne humaine ? La première difficulté qui naît de cette question, c'est qu'on articule deux réalités, deux notions différentes qui ne qui ne sont pas sur le même plan. Le zygote, c'est une réalité biologique. Il n'y a pas à en discuter, c'est la première cellule. Tandis que la personne humaine, ça peut effectivement se définir dans plusieurs domaines. On peut la définir comme étant un corps immédiatement habité par une âme, enfin, un corps habité par une âme spirituelle, définition anthropologique. Et si le zygote est une personne humaine, on doit dire que c'est un corps immédiatement habité par une âme spirituelle. La personne humaine, ça peut être c'est une personne en acte. Et certains disent que ce n'est pas une personne vraiment une personne humaine, c'est une personne en puissance. Donc là, c'est des notions métaphysiques. J'espère que beaucoup d'entre vous ont suivi les premiers cours de philosophie qui ont eu lieu pour comprendre un peu ça. Une question de personne en acte et en puissance. On peut dire aussi une personne humaine. Si le zygote est une personne humaine, ça doit être un être digne de respect, c'est une notion éthique. Ou bien une formulation juridique, c'est un sujet de droit. Donc il doit avoir la protection de notre législation au même titre que toute autre personne. Ou bien une définition théologique, une créature à l'image de Dieu. C'est sans doute ça une notion qu'on n'aura pas tellement l'occasion d'entendre lors de la prochaine campagne. Alors à ce sujet, il y a trois opinions. La première opinion, ce n'est pas une personne humaine, ça ne le devient que plus tard. Et là, il y a encore des divergences d'opinions pour savoir quel est le stade où ça devient une personne humaine. C'est souvent d'ailleurs pas tellement bien défini. C'est l'opinion majoritaire, malheureusement, qui justifie toutes les pratiques actuelles, sur le plan social, comme l'avortement, ou scientifique, la recherche sur l'embryon, la procréation in vitro, artificielle. Il y a deux opinions minoritaires. Celle qui dit que la question est impossible à trancher, on ne peut pas savoir, c'est impossible. Elle inspire en partie notre législation. Elle est l'apanage de beaucoup de nos hommes politiques qui sont dans la nécessité de prendre la température extérieure avant de s'exprimer, de formuler leur propre opinion. Il y a l'opinion qui dit que la personne humaine, que le zygote est une personne humaine au plein sens du terme, avec toutes les conséquences que cela impose dans le domaine social, juridique, etc. Vous l'avez compris, c'est l'opinion des talibans que nous sommes, qui ne peut être que minoritaire, mais qui survit encore jusqu'à présent. Je vais maintenant vous présenter les arguments qui donnent à penser que le zygote et l'embryon pourraient ne pas être une personne humaine. Le premier argument, c'est celui des jumeaux homozygotes. Les jumeaux homozygotes, je rappelle, c'est donc les vrais jumeaux, ceux qui sont issus du même œuf, à partir d'une seule cellule initiale. C'est un argument assez frappant, assez déroutant, fréquemment utilisé. En fait, cet argument nous dit « la personne, c'est un individu ». Qui dit « individu » dit « individu ». Vous êtes une personne, vous êtes un. Alors, tant que l'embryon peut se diviser, ce qui est le cas jusqu'au stade de 15 jours, ce n'est pas une personne humaine. C'est l'argument de nombreux chercheurs et théologiens. Je vais vous lire juste une citation pour illustrer cet argument. Concernant la recherche, sur l'embryon, on ne manipule donc pas des personnes, mais des cellules humaines. Au stade concerné, non seulement il ne s'agit pas de personnes, mais même pas encore d'embryons. Ce sont des stades pré-embryonnaires parce que les cellules isolées qui apparaissent au premier stade de la division de l'œuf chez les mammifères et très vraisemblablement chez l'homme aussi peuvent chacune donner naissance à un embryon jumeau complet. C'est pourquoi au stade cellulaire antérieur à la nidation, il n'existe pas d'embryon proprement dit, étant donné que même au stade embryonnaire, les critères de définition de la personne humaine ne sont pas encore apparus. Fin de citation. Cela nous amène à l'argument suivant, qui est un peu cousin, un peu voisin de celui-ci, celui des cellules totipotentes. À un organisme différencié, c'est-à-dire composé de parties ou organes ayant chacun une fonction bien distincte. Or, l'embryon, au premier stade, est composé de cellules totipotentes, c'est-à-dire capables de devenir n'importe quel tissu ou organe. Alors, selon cet argument, on pourrait dire qu'au commencement, on n'a pas affaire à une personne humaine. Un autre argument, un troisième argument, qui plaiderait contre l'humanité de l'embryon du zygote et de l'embryon au premier stade, c'est la formation du placenta. Le zygote va donner naissance à deux parties distinctes, l'embryon lui-même et aussi le placenta. Et selon les tenants de cet argument, c'est seulement après 15 jours, quand le placenta et l'embryon se sont divisés, qu'on peut admettre qu'on a affaire à une personne humaine. Avant, on ne devrait parler que de pré-embryon, une sorte de phase de préparation, d'où émerge véritablement l'embryon par la suite. C'est un argument important, car il a été utilisé en Angleterre pour autoriser la recherche sur ce qu'on appelle, on appellera le pré-embryon, donc de 0 à 15 jours. Nous arrivons maintenant à des arguments encore plus philosophiques. C'est l'argument de la nécessité d'un corps organisé pour recevoir une âme ou bien pour être une personne humaine. Argument inspiré d'Aristote, comme les suivants que je vais présenter. Le zygote et l'embryon, au premier stade, n'ont pas de système nerveux, pas de cerveau, pas de sens. Alors, comment pourrait-il recevoir une âme humaine et être une personne humaine? Puisque l'opération propre à la vie humaine, c'est l'opération intellectuelle, et celle-ci est basée sur les sens, sur les organes de la sensibilité. Un autre argument, c'est celui du développement discontinu de l'embryon. On n'aurait affaire pas à un développement continu progressif, mais à des sauts d'une étape à l'autre. Une sorte de succession de générations de corruption. Un organisme disparaît et laisse la place à un autre. Comme le papillon, si je ne dis pas de bêtises, je crois d'abord une chenille, après une chrysalide, et puis ensuite le papillon tel qu'on le voit voler. Cet argument est inspiré également de la théorie de la phylogénèse. Ça veut dire, la phylogénèse, c'est la conception selon laquelle le développement de l'embryon humain récapitule les sortes, et même les trois sortes d'espèces vivantes, comme la théorie de l'évolution. On part d'un stade plus primitif, donc celui d'espèces végétales. On arrive à celui d'espèces animales, de plus en plus perfectionnée, et pour finir, on aboutit à l'espèce humaine. Cet argument parlerait pour la présence retardée de l'âme humaine, ou la théorie d'âmes successives, une âme végétale, une âme animale et une âme humaine, qui n'arrivera que plus tard. Ces arguments nous amènent au suivant, de plus en plus philosophique. Donc l'argument de la nécessité d'une progressive disposition à l'âme intellective. Alors pour les dames qui tiennent les stands, rassurez-vous, je pense qu'il y a peu de chances d'être confronté et de devoir discuter devant en face de cet argument autour d'un en versant du vin chaud. Il ne faut pas vous inquiéter, je vais quand même en parler, parce qu'il il vient d'Aristote, selon lequel la matière doit être proportionnée à la forme, de même le corps humain à l'âme. On n'imagine pas, selon cet argument, selon cette conception, une âme humaine précieuse, parfaite, dans un organisme rudimentaire. Or, pour arriver à cette perfection du corps humain, cette perfection nécessaire pour recevoir l'âme humaine, il faut du temps. Je vais vous lire une autre citation. La matière première est d'abord en puissance à la forme de l'élément. Puis, existant sous la forme de l'élément, elle est en puissance de la forme du mix, le corps composé. Considérée sous la forme du mix, elle est en puissance de l'âme végétative, car cette âme est l'acte d'un tel corps. Et de même, l'âme végétative est en puissance de l'âme sensitive, et l'âme sensitive de l'âme intellective. C'est ce qui apparaît dans le déroulement de la génération humaine, où le fœtus vit d'abord de la vie de la plante, puis de la vie animale, et enfin de la vie de l'homme. Or, dans les choses engendrables et corruptibles, on ne trouve pas, après cette forme, une autre forme plus dernière et plus digne. La fin ultime de toute la génération est donc l'âme humaine, et c'est vers elle que tend la matière comme vers une forme ultime. Alors, qui a dit cela ? Est-ce une animatrice du planning familial ? Ou bien quelqu'un qui a bu trop de vin chaud autour d'un stand soutenu par l'aide pour la mère et l'enfant ? Ou bien un théologien moderne ? Non. C'est saint Thomas d'Aquin. Alors ça se corse. On arrive à l'argument d'autorité, saint Thomas d'Aquin, qui nous met un petit peu dans l'embarras. Oui. Un bon chrétien qui commence à contester saint Thomas d'Aquin. Puis on vous dit, ben voilà, alors saint Thomas d'Aquin, il a dit ça, qu'est-ce que vous dites ? Je vous cite encore saint Thomas d'Aquin. Ainsi, plus une forme est noble et éloignée de la forme de l'élément, plus s'impose la nécessité de formes intermédiaires par lesquelles progressivement est atteinte la forme ultime. Et par conséquent, plus il faut de générations intermédiaires. C'est pourquoi dans la génération de l'animal et de l'homme, en qui la forme est la plus parfaite, il y a de nombreuses formes et générations intermédiaires, et donc plus de corruption, car la génération de l'un est corruption de l'autre. Donc l'âme végétative, qui est d'abord présente lorsque l'embryon vit de la vie d'une plante, se corrompt, et une âme plus parfaite, à la fois végétative et sensitive, lui succède. Alors il vit de la vie d'un animal. Cette autre forme se corrompt, et survient alors l'âme raisonnable, dont l'origine est extrinsèque, bien que les âmes précédentes soient dues à la vertu de la semence. Il y a encore actuellement beaucoup de néo-thomiciens, je crois qu'on dit comme ça, thomasiens, pardon. Thomistes, excusez, oh là là. Enfin, donc beaucoup de néo-thomistes qui s'inspirent de cet argument et qui seraient donc plutôt là pour contester l'humanité de l'embryon dès le départ. Je continue avec les arguments qui plaident contre l'humanité de l'embryon. Il y en a beaucoup, je m'excuse. Alors, ceux-là sont inspirés de systèmes philosophiques différents. Je vais les citer peut-être un peu plus rapidement. Celui que l'embryon est un parasite. Il y a une symbiose entre l'embryon et sa mère. Alors, un individu, une personne humaine, c'est un être autonome. Ça ne peut pas être un parasite, comme l'est l'embryon. Un autre argument, l'embryon n'est pas un être de conscience, ce n'est pas un être de relation, ni de parole. Et seule la vie autoconsciente, la conscience de soi-même, définit la personne. Un argument. Au sommet du subjectivisme, c'est celui de la reconnaissance par autrui. On l'entend assez souvent. C'est donc la reconnaissance par autrui qui définit la personne. En fait, les tenants de cet argument font une sorte de distinction entre la vie et la personne. Il y a la vie, c'est une sorte de force, de vibration, qui est un peu partout présente. Et elle est partagée tout à fait également par les cellules germinales, ovules, spermatozoïdes, et elle habite également l'embryon, comme tout ce qui n'est pas de la matière inerte sur Terre. Et la personne, eh bien, c'est autre chose. La personne, elle arrive, elle est créée par la reconnaissance. On dit, ben voilà, ça je pense que c'est une personne. Donc, c'est une personne. Si on ne pense pas que c'est une personne, ben, ça ne l'est pas. Encore une citation à ce sujet. Qu'il faut distinguer la personne et la vie. Cette dernière préexiste en l'embryon, se poursuit après lui. Y a-t-il un droit de l'embryon ? Non, il n'y a pas de droit de l'embryon. À mes yeux, il y a un droit des parents, des géniteurs. Un embryon devient une personne sous deux conditions, qu'il possède les capacités physiologiques de se développer et qu'il soit accepté. Il n'appartient qu'au désir des gens qui l'ont élaboré, en pensée et en pratique. La femme décide en conscience si elle veut, oui ou non, le porter. On ne peut pas trouver une destinée aux embryons contre la volonté des géniteurs. L'important, c'est la démocratie et la dignité. Tant que l'on respectera les hommes dans leurs différences, dans leur volonté, ça ira. Encore une autre citation. Dans ma pratique de médecin, je me suis rendu compte que ce qui justement va faire passer l'embryon du potentiel à la réalité, c'est la manifestation du désir d'enfant. Ce qu'il appelle le projet parental. En effet, avant celui-ci, on se trouve face à un grumeau de cellules. Or, le projet parental donne à l'enfant un avenir. Ce qui commande le respect de l'embryon, c'est l'avenir dont il est porteur. Autrement dit, l'embryon n'existe pas sans son avenir. Son avenir ne dépend que du regard de l'autre. Un exemple, c'est une succession de citations. L'embryon congelé sort du néant du froid uniquement par le désir d'une femme et d'un homme. Si la femme ne dit pas « celui-là, je le veux », l'embryon, bien que constitué, ne peut pas sortir de la chambre froide. Il ne sera pas une personne. Je termine, je pense, par la série des arguments. Je crois que c'est le dernier. C'est celui de la très grande fréquence des avortements spontanés. En effet, 50% des fécondations n'arriveraient naturellement pas à leur terme.
C'est un argument assez fort, assez troublant, qui a ébranlé plus d'un, parce qu'effectivement, on peut dire que le bon Dieu créerait un être humain avec son âme, un être à sa ressemblance, à son image, et puis il en laisserait perdre 50% juste après cette création, dans les premiers instants, première minute, première heure, premier jour. Cela ressemble à un gaspillage incompatible avec la providence divine. Raisonnablement, si vous étiez le bon Dieu, vous attendriez quand même que l'élimination des 50% soit faite avant de mettre une âme à l'embryon. Certains vont encore plus loin en disant que si les chrétiens considèrent qu'il y a une personne humaine dès la conception, ils devraient s'abstenir d'avoir une vie sexuelle. Parce que ils font 50% de mort. Cela va jusque-là. Ou bien prendre les moyens adaptés. Voilà, j'espère que vous avez encore le moral pour continuer, ça va. Je vous ai peut-être un peu accablé, je suis désolé. J'ai voulu être assez complet dans la liste des arguments. J'en ai laissé quelques-uns encore de côté, il y en a encore plus. Ils peuvent être bien amenés, bien présentés, assez déconcertants. Ils ne sont pas d'ailleurs toujours évidents à réfuter. Je vais donc vous présenter maintenant la réfutation de ces arguments. Je vais les reprendre dans l'ordre où je les ai présentés. Alors, on retourne en arrière. On revient aux jumeaux homozygotes. Il faut d'abord dire que l'apparition de jumeaux homozygotes, c'est une exception rare qui peut être considérée dans certains cas comme une erreur, un accident de parcours. Pas nécessairement quelque chose d'absolument naturel. Ensuite, un argument, une conception philosophique, il ne faut pas confondre indivision et indivisibilité. Dans l'individualité, il y a surtout deux notions, qui est celle de l'indivision, on est un et pas deux, et la distinction des autres réalités, c'est-à-dire qu'on n'est pas quelqu'un d'autre. C'est ça qui fait un individu. Donc ce qui définit un individu, c'est d'abord son individualité et pas l'indivisibilité. Celle-ci, pour utiliser un terme philosophique, est un accident, mais pas une propriété de l'individualité. Ensuite, sur le plan biologique, il faut dire que la gémellité vraie, le fait qu'il y ait deux, qu'il y ait des vrais jumeaux, n'est pas une séparation en deux parties égales d'un embryon au départ. C'est d'abord ou seulement une cellule du premier embryon qui se détache à un stade ultérieur et se développera ensuite de façon séparée. Donc dans le cas des jumeaux homozygotes, on peut considérer qu'il y a une différence de génération. C'est l'un des deux qui donne naissance à l'autre. C'est un peu comme une bouture d'une plante. Encore une citation pour illustrer ce propos. Une citation tirée de Jacques Testard, comme vous le savez, donc l'un des pionniers de la procréation artificielle, qui a ensuite contesté cette méthode. Un exemple montre la confusion entretenue par l'embryologiste entre les faits et les croyances pour justifier son savoir. Tant que l'œuf est capable de se séparer en deux œufs jumeaux, on ne pourrait pas le reconnaître comme embryon. Mais on peut bouturer un géranium sans qu'il perde pour cela, et a priori, sa qualité de plante nommée géranium. C'est que le discours de l'embryologiste sur le pré-embryon n'est pas seulement issu de l'observation. Il échappe à l'objectivité scientifique, puisqu'il refuse à l'homme ce qu'il accorde au géranium sans avoir démontré leur différence. Vous avez donc compris, on prend un géranium, on prend un petit morceau, et on fait un deuxième géranium. Ça ne veut pas dire qu'on n'avait pas affaire à un géranium avant. C'est la même chose pour les jumeaux. Vous prenez un embryon au premier stade, ensuite une petite partie s'en détache, et vous avez un deuxième individu. Ça ne veut pas dire que le premier n'en était pas un. On pourrait encore essayer d'illustrer ça par un autre exemple. Supposons que jusqu'à l'âge de 16 ans, on a la possibilité de, par un détachement d'une partie de son corps, de se multiplier, de donner naissance à un autre individu. Ça ne voudrait pas dire qu'on n'était pas un homme jusqu'à cet âge. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne doit plus y avoir la possibilité de se diviser pour commencer à être un être humain. Je vous rappelle juste au passage, mais ça n'est pas un argument pour tout le monde, bien sûr, la création d'Ève à partir d'Adam. Un argument peut-être à éviter en face d'un certain public. J'en arrive au deuxième argument, celui des cellules totipotentes. On peut répondre à cet argument que, probablement, dans les premières heures, une partie des cellules perdent déjà cette totipotence. Très rapidement, certaines d'entre elles se différencient et se destinent déjà au tissu définitif qu'elles vont constituer. Il y a, très rapidement, chez le jeune embryon, la juxtaposition de cellules totipotentes avec des cellules déjà différenciées. Ces cellules totipotentes, qui le restent un peu plus longtemps, répondent à la nécessité du développement et la possibilité de réparation en cas d'incident. Si une partie de cellules se détruisent, qui devait constituer un organe, il y a des cellules totipotentes qui sont là pour les remplacer. Et en fait, comme on l'a récemment découvert, chez un adulte, ce n'est pas fondamentalement différent. C'est une question de composition, de répartition. On a en effet découvert la présence de cellules souches qui, sans être totalement totipotentes, sont au moins pluripotentes, même chez l'adulte. Même chez un adulte, nous avons des cellules dans des tissus nerveux qui peuvent reconstituer d'autres tissus que du tissu nerveux, par exemple. Les cellules sanguines qui peuvent devenir des cellules nerveuses. Alors, là, c'est une question de composition. Chez l'embryon, il y a plus de cellules totipotentes ou pluripotentes que de cellules déjà différenciées. Chez l'adulte, il y a plus de cellules différenciées que de cellules pluripotentes, mais il y en a chez les deux. Venons-en à l'argument de l'origine commune de l'embryon du placenta à partir du zygote. Il faut remarquer à ce sujet que le placenta est également formé à partir des tissus de la mère. Cet argument est, je pense, facilement contestable, car il postule que ce qui est rejeté ou temporaire ne fait pas partie de l'individualité ou de l'individu. Alors, on peut dire au contraire qu'à une époque de notre vie intra-utérine, le placenta était une partie de nous-mêmes. On peut donner par exemple aussi l'exemple de l'organe du thymus chez l'enfant. C'est un organe qui est important pour l'immunité et qui disparaît chez l'adulte. Pour vous faire comprendre, vous expliquer ce que c'est le riz de veau, chez le veau, bien sûr. Alors, cet organe existait à une époque chez l'enfant, puis il disparaît. Donc ça ne veut pas dire que l'enfant n'était pas un homme s'il perd un de ses organes, qui avait une fonction à une époque, et puis qu'il n'en a plus après, et qui a mis à disparaître. On peut tout simplement prendre l'exemple des cheveux et des dents. Si nous avons perdu les cheveux et les dents, à l'époque où nous les avions encore, on était quand même nous-mêmes. On en arrive aux arguments, enfin à la partie qui se corse, les arguments plus philosophiques, hein, de manière accablante, on arrive à la nécessité d'un corps organisé pour recevoir une âme ou pour être une personne humaine. Cet argument pouvait être compréhensible à l'époque d'Aristote, de saint Thomas, car on n'avait pas de microscope, on n'avait pas une connaissance scientifique très très profonde de ce qui se passait au premier stade de la vie. Maintenant, on sait que le zygote a tout de suite, dès son apparition, une activité intense, rapide et continue. Ce n'est pas quelque chose de rudimentaire, c'est déjà un organisme très complexe, très structuré, très organisé, même s'il est tout microscopique. Il faut rappeler que du stade de zygote à celui de 9 mois, on passe de 1 à 10 milliards de cellules. Ce n'est pas quelque chose de rudimentaire, primitif, qui peut faire ça. Ceci est un apport de la science moderne. Mais déjà, dans les siècles antérieurs, ceux qui commençaient à utiliser le microscope, à s'intéresser à ce problème, étaient émerveillés. Et un auteur, un philosophe, a dit « L'œuf est l'ouvrage d'une intelligence infinie ». Je voudrais encore développer ce point en vous rappelant, en vous faisant un rappel historique. Il y a eu pendant jusqu'à présent un débat qui existait depuis l'Antiquité, c'est celui de l'épigenèse et de la préformation, deux théories opposées. Je vais vous expliquer ce que c'est. La préformation considère que l'embryon est contenu en entier, mais en miniature dans le germe. On aurait un enfant déjà formé, avec toutes ses parties distinctes, mais minuscules. Son développement serait purement quantitatif, donc c'est seulement un changement de taille auquel on aurait affaire. Je vous donne deux images pour mémoriser. Essayez par analogie de comprendre ce que cela signifie. Ce serait comme un vêtement qui serait roulé en boule, complètement comprimé, compacté au fond d'un sac. On se dit, tiens, mais qu'est-ce que c'est cette petite boule de tissu là au fond? On sort, on le déploie, on l'étire et on a une magnifique chemise. Il faut peut-être repasser après. Mais un très beau vêtement quand même, alors qu'au départ c'était juste une toute petite boule de tissu. Une autre image, un autre exemple, qui s'inspire de l'iconographie chrétienne. Vous avez sans doute tous vu des représentations de l'Annonciation ou de la Visitation, où on a représenté l'enfant Jésus au premier stade, tel qu'on l'imaginait. Il est représenté comme une réduction de l'enfant Jésus de la crèche, qui est lui-même une réduction d'un enfant de 4-5 ans. Donc, c'est une image un peu artistique de la théorie de la préformation. La théorie épigénétique qui inspire Aristote et saint Thomas, considère que dans le germe, on a quelque chose d'informe, d'inorganisé, qui se perfectionne et qui s'organise ensuite, de façon progressive. Et considère que dans ce germe, rien de ce qui existe plus tard n'est présent. C'est donc par un développement, non pas quantitatif, mais qualitatif, qu'on aboutit à un être humain morphologiquement reconnaissable. Cette théorie, vous l'avez compris, facilite le glissement vers la notion du changement d'espèce au fur et à mesure du développement de l'embryon, donc du stade végétal, animal et humain, ou bien elle facilite le glissement vers la notion moderne de personne humaine potentielle, ou autrement dit, la possibilité d'être une personne humaine, de l'être en potentialité, mais pas encore véritablement. Alors, où en sommes-nous actuellement avec ces deux théories, et qui a raison ? Eh bien, on peut dire que ces deux théories sont justes toutes les deux, et elles sont devenues conciliables grâce à une nouvelle science qui est la génétique. Après le rappel historique au sujet de l'affrontement de ces deux théories, donc un rappel scientifique que nous dit la génétique. La fusion du spermatozoïde et de l'ovule donne une nouvelle cellule, qui est le zygote, comme je vous l'ai déjà dit. Et la génétique a découvert que dans le zygote se trouve reconstitué le stock définitif des chromosomes, qui, comme vous le savez, et le patrimoine génétique, qu'on appelle également génome. Ce génome va rester identique tout le long de la vie. C'est le premier élément, chronologiquement, c'est la base de notre corps. On peut dire aussi que c'est le premier instrument corporel que l'âme emploie. Sur le plan matériel, c'est le moteur de l'individu, du stade de zygote à celui d'adulte. Je voudrais aborder encore deux notions. Alors, deux termes techniques, celui de génotype et de phénotype. Le génotype, c'est notre capital génétique, nos chromosomes, qui supportent les gènes. Le phénotype, c'est l'expression du génotype. C'est son déploiement, sa manifestation extérieure. Je vous donne deux exemples. Concernant par exemple le groupe sanguin, nous portons les gènes A et O, mais votre groupe sanguin, votre sang, sera A. Ou bien la couleur des yeux. Vous avez donc ce double capital de chromosomes et de gènes. D'un parent, vous avez reçu le gène des yeux bleus, de l'autre, celui des yeux marrons. Vous avez donc le génotype yeux bleus, yeux marrons, mais vous n'avez que la couleur bleue ou que la couleur marron. Et ça, c'est votre phénotype. C'est un exemple qui n'est pas très juste, d'ailleurs, parce qu'en réalité, c'est autrement, mais ça aide à comprendre. Encore une autre image. Vous avez une pièce de musique qui est écrite sur le papier. C'est le génotype. Si vous prenez un instrument ou des musiciens, vous la jouez, Vous la rendez audible, c'est le phénotype. Si vous détruisez la partition, vous pouvez toujours avoir des musiciens, il n'y a plus de musique. Alors pour en revenir à l'embryon, on peut considérer que son activité, son développement font partie du phénotype. Et ce parcours entre le zygote et l'adulte est commandé par le génome. On peut dire, là on en vient à l'argument de tout à l'heure, si vous ne l'avez pas oublié, celui de la nécessité d'avoir des organes, un corps organisé pour recevoir une âme, on peut dire que tous nos organes, y compris le cerveau, existent déjà réellement dans nos chromosomes. Dans le zygote et l'embryon, au stade de l'organogénèse, les organes sont présents sous le mode génotypique, qui sont un peu comme concentrés dans les chromosomes, et plus tard, ils seront présents sous le mode phénotypique, sous l'apparence qu'on leur connaît. Alors la théorie de l'épigénèse, celle qui estime qu'il n'y a rien au départ, qu'il n'y a rien que de ce qu'on de reconnaissable, elle a raison de dire qu'on ne retrouve pas les caractéristiques, les éléments d'un corps humain chez le zygote. Mais ce n'est qu'en apparence, et la génétique confirme la théorie préformationniste avec une nouvelle vision plus nuancée et moins naïve que dans le passé. Pour résumer, il est donc nécessaire de ne pas confondre humain et adulte. Et on peut dire encore que l'embryon n'est pas un être humain en puissance ou une personne potentielle, mais un être humain en puissance d'être un adulte, avec le potentiel de devenir un adulte. On peut donc appartenir à l'espèce humaine sans posséder aucune propriété morphologique de l'adulte. Et c'est le cas du zygote, qui par son génome possède une identité spécifique qui est son appartenance à l'espèce humaine. Et une deuxième identité personnelle, car son patrimoine génétique est unique, il est distinct de celui de tous les autres individus, y compris celui de sa mère. Juste une remarque, on peut, par les chromosomes, tout de suite reconnaître si le zygote est masculin ou féminin, garçon ou fille. Ça serait quand même, c'est quand même curieux qu'on puisse dire c'est un garçon, c'est une fille, et puis dire ben, c'est pas un être humain. Là, je voudrais encore vous faire une citation. « La vie individuelle de l'homme est toujours donnée dans l'œuf fécondé, ce qui veut dire que l'individualité de la vie humaine existe de la fécondation à la mort. Seule l'apparence se modifie. Il y a un changement de l'apparence initiale, pas de changement de l'être. » J'ai fini donc avec ces arguments un peu difficiles, plus spécialement philosophiques, où on voit que l'apport de la science moderne à la philosophie. Maintenant, j'en viens aux arguments plus subjectifs, subjectivistes, celui de la reconnaissance par autrui pour être une personne humaine. Finalement, cet argument considère que la réalité, c'est ce que je pense, mais ce n'est pas ce qui est. On pourrait presque dire, je pense qu'il pleut, donc il pleut, même s'il fait un grand soleil. Pourtant, l'embryon est déjà là avant qu'on s'en aperçoive. Il est déjà homme avant qu'on se rende compte de sa présence. La femme ne sait pas encore qu'elle est enceinte, et l'embryon est déjà là. Alors, comment peut-elle le reconnaître? Il y a une sorte de contradiction, une absurdité. Une fois que la mère ou que les parents remarquent sa présence, C'est d'ailleurs en tant qu'homme que se pose la question de l'accueillir ou pas. Quand une femme apprend qu'elle est enceinte et dit « je n'en veux pas », elle sait bien qu'il s'agit d'un être humain, et qui est d'ailleurs beaucoup plus encombrant qu'un chat ou un autre animal de compagnie. Si elle ne le savait pas, si elle ne reconnaissait pas que c'était un être humain, elle n'aurait peut-être même pas besoin d'avorter. Vous entendrez cet argument aussi, donc sous cette forme, c'est le projet parental qui fait que l'embryon devient une personne humaine. Je vous ai donc lu quelques citations à ce sujet tout à l'heure. C'est un argument très pratique, très utilitaire, mais totalement absurde. Car finalement, quoi de plus changeant qu'un projet parental, comme tous les projets? Par exemple, l'histoire d'un couple qui divorce. Vous avez tous lu la lettre de Madame Mabillard dans le courrier des lecteurs, qui racontait l'histoire de ses parents, qui voulaient avoir un deuxième enfant. La femme est enceinte pour une raison quelconque. Ils se disputent, le couple se sépare et la femme avorte. Alors, avec cette notion du projet parental qui donne l'humanité en embryon, on peut donc être une personne humaine, et puis, si pour une raison ou une autre la reconnaissance par autrui est retirée, on devient une chose. C'est assez curieux, c'est en tout cas tout à fait absurde et terrible. Un autre argument important et déroutant, c'est celui du grand nombre des avortements spontanés. J'arrive finalement au dernier argument. Alors, on parle de 50% d'avortements spontanés après la conception. Eh bien, il faut savoir que ce chiffre est surestimé, car le nombre réel d'avortements spontanés est bien inférieur. Donc, il serait tout à fait... Il est peu fondé de dire qu'il y a 50% d'avortements spontanés, il y en a beaucoup moins. Néanmoins, il y en a quand même encore beaucoup. Et il est vrai que cela reste assez mystérieux. Quelle est la cause de ces avortements spontanés? On a évoqué la possibilité d'anomalies chromosomiques. On a pu l'observer d'ailleurs dans certains cas. Ce sont des anomalies chromosomiques massives, tout à fait accidentelles, où on se retrouve avec une structure qui comporte 69-92 chromosomes au lieu de 46. Il y a une mauvaise division des cellules germinales, spermatozoïdes et ovules, qui sont restés avec 46 chromosomes. Quand ils se rejoignent, ça l'a fait, si j'ai bien fait mon calcul, oui, 92 chromosomes, alors que normalement, il ne devrait y en avoir que 46. On parle de polyploïdie. On peut alors, effectivement, dans ce cas-là, considérer qu'on n'a pas affaire à un être humain devant des aberrations chromosomiques aussi massives, aussi importantes. Et il n'y a aucune viabilité, ça c'est certain. On a évoqué également la possibilité d'infection. Mais de toute manière, utiliser le mot naturel est abusif. Il s'agit finalement d'accident. Or, dès qu'il y a la vie, il y a le risque de mourir accidentellement, prématurément. Ce risque est plus important au tout début de la vie chez l'embryon, mais il faut se rappeler qu'il n'y a pas si longtemps, il était également très grand pour les enfants à la naissance et dans les premières semaines après. Et pourtant, on n'a jamais dit qu'il fallait avoir passé le cap de je ne sais pas combien d'années pour être reconnu comme une personne humaine. J'arrive à la fin. vous rappelle donc les trois opinions au sujet de l'humanité de l'embryon. Celle qui dit « il n'y a pas de personne humaine dans l'embryon ». Il s'agit d'un appendice de la femme. On peut donc en faire ce qu'on veut. Donc là, je vous ai donné les arguments qui vont contre cette opinion. L'opinion qui dit « on ne sait pas », on ne peut pas, savoir, c'est impossible de décider. Là encore, la réfutation peut tout à fait se faire. Il est curieux d'ailleurs que ceux qui disent ça, on ne sait pas, on n'en sait rien, on ne peut pas décider, ils font quand même comme si on savait, puisque, en tout cas, on laisse se faire l'avortement et on laisse se poursuivre sa dépénalisation. Donc si vraiment on ne savait pas, on devrait au moins s'abstenir. Et puis l'opinion des talibans, que je vous ai, que je viens de vous argumenter. Je vous récapitule peut-être les points importants de ces arguments. J'en sors deux. D'abord, celui des jumeaux. Les jumeaux, ce n'est pas une séparation en deux d'un embryon. Ensuite, deuxième point important, le zygote, l'embryon au premier stade, est déjà en possession de son patrimoine génétique. Tout est là, comme plus tard. Alors, je vous parlais des talibans. Vous savez que, on a l'habitude, on se fait traiter à ce sujet, et qu'on s'engage pour le combat contre l'avortement de fondamentalistes. Mais il s'agit de la question être ou ne pas naître, ou bien être et ne pas naître, c'est, vous le reconnaîtrez, quand même une question importante, fondamentale. C'est le fondement. Alors, si on vous appelle fondamentaliste, il ne faut pas vous inquiéter, car devant un tel problème, devant une telle question fondamentale, je pense qu'on a le droit d'être un peu fondamentaliste. Voilà, j'ai fini. Je vous remercie de votre attention. Merci. Vous n'êtes pas trop assommé. Peut-être avez-vous des questions. Pas trop difficiles, parce que ça frisait déjà l'échauffement mental. Pardon, oui. Le même génotype, mais pas le même phénotype.
Y a-t-il une évolution du génotype ?
Le génotype, c'est le capital chromosomique. Et non, il ne change pas, à quelques nuances près, en fait. Mais là, ça serait un peu trop difficile à expliquer, à aborder sur le plan scientifique. Il peut y avoir des légères modifications, mais qui ne sont pas essentielles. Dans l'ensemble, le patrimoine, il reste tel qu'il est. Le phénotype, c'est l'expression du génotype. Alors ça peut être tout, ça peut être nos caractères morphologiques, ça peut être aussi notre vie, et en tout cas, chez l'embryon, c'est son développement qui est commandé par le génotype. Développement qui est commun à tout le monde. Et Il y a tout là-dedans. Il y a l'appartenance à l'espèce, les caractéristiques individuelles et le programme de, on pourrait dire, le programme de notre vie. S'il n'y a pas d'accident, l'heure de notre mort est conditionnée par le génotype. Il y a des gens qui vivent naturellement une vie plus courte, d'autres qui vivent très âgés. Résistance aux maladies aussi, ou bien au contraire, la sensibilité. Il y a une remarque intéressante à ce sujet, c'est que le génotype, le patrimoine génétique, il est extrêmement proche, celui de l'être humain est très proche de celui des animaux. Par exemple, il y a peut-être 1, je ne sais pas combien, pour cent de différence entre celui de l'homme et du chimpanzé. Et pourtant, le phénotype, enfin, en principe, il est quand même très différent, on pourrait dire. Plus de 50%. Oui. C'est une autre différence, une différence de prix. L'embryon humain, effectivement, se fabrique facilement, de bon marché, pour en avoir, s'en procurer sans problème, c'est très bon marché. L'embryon de chimpanzé, c'est plus délicat, plus précieux. Cet argument a été réellement utilisé par des scientifiques. Spontané. Oui, on pourrait dire les fausses couches. À la différence près qu'au tout début, on s'en aperçoit quelquefois même pas. Alors, c'est quand même une question pas étudiée à fond. On ne sait pas toujours ce qui se passe. Pour les fausses couches plus tardives, qui ont probablement souvent des infections, on peut penser à des virus. Mais au tout début, on peut peut-être considérer qu'il y a eu vraiment une erreur totale, un accident complet, et que deux cellules, il y a eu une fusion de deux cellules tellement aberrantes qu'on n'a pas affaire à un organisme humain.
Là, on parle d'un enfantement spontané à un tout premier stade.
Au tout premier stade, par exemple, au stade où on s'en rend pas compte. Je n'ai pas donc de texte documenté là-dessus, mais un gynécologue m'a parlé d'une étude, une petite étude, je ne sais plus combien, il y avait une dizaine, un peu plus d'une dizaine de femmes, chez qui on avait pu détecter très précocement une conception, et sur 10 ou plus de 10, toutes sont arrivées à terme. Pascal Hyde, dans son texte, parle aussi d'une étude, je prends une étude également anglaise, et là, il y a eu plus 100 et quelques personnes, il y a le quart seulement de pertes. Il semble qu'on soit quand même moins des 50% qui sont invoqués. Donc pour ça, on peut dire soit effectivement au départ on peut probablement admettre qu'il n'y a quand même pas eu conception d'un être humain. Ou bien que, en tout cas plus tard, il y a accident. Et ma foi, que ça fait partie de la vie.
Avec les moyens actuels de progresser scientifiquement, on s'aperçoit que une cellule du départ, ou même de moins qu'une cellule, il y a tout le patrimoine humain qui est là. Et puis alors là, on n'y a pas grand. C'est un petit peu paradoxal.
C'est la difficulté, la conciliation entre ce qu'on détermine, ce qu'on constate objectivement, scientifiquement, et l'application philosophique. C'est aussi l'incohérence du comportement humain. Dans bien des cas, ça c'est une réalité. Et puis, il y a aussi l'aspect utilitaire. On peut bien constater qu'il y a tout le capital chromosomique, tout est là au départ, mais après, de là à faire une loi qui en conséquence interdit l'avortement, il y a un grand pas sur le plan pratique. Puis ensuite, pour beaucoup de scientifiques, c'est quand même gênant de ne pas pouvoir disposer de matériel humain. On compte quand même, enfin on compte, moi pas, je ne sais pas, de toute façon, je ne suis pas scientifique, mais beaucoup comptent quand même là-dessus. Dans certains pays, d'ailleurs, à ce sujet, on est déjà pas mal bien lancé.